Chapitre 7. Poussées par les rayons du printemps, les neiges des collines environnantes sont déjà descendues en ruisseaux bourbeux sur les prairies inondées. À peine sortant de son sommeil, la nature salue d'un sourire attendri le matin de l'année. Les cieux d'un bleu plus foncé sont plus rayonnants. Encore transparents, les bois se couvrent d'un duvet de verdure. L'abeille quitte sa cellule de cire pour aller butiner sur les premières fleurs. Les champs se sèchent et se nuancent. Les troupeaux mugissent joyeusement et le rossignol a déjà chanté dans le silence des nuits. Comme ta venue est triste au printemps, printemps époque de l'amour. Quelle agitation pleine de langueur se fait alors dans mon âme, dans mon sang. Avec quelle émotion pesante je sens ton souffle me caresser le visage au sein de la tranquille campagne. Serait-ce que toute jouissance m'est désormais étrangère? Que tout ce qui égaye et vivifie, tout ce qui est joie et splendeur, inspire de l'ennui et de l'abattement à une âme dès longtemps morte et qui ne voit plus que des couleurs sombres? Ou bien, loin de nous réjouir du retour des feuilles tombées à l'automne, nous rappelons-nous nos pertes cruelles au nouveau bruissement des forêts? Ou bien, dans notre pensée consternée, rapprochons-nous du jaunissement de la nature la flétrissure de nos années pour lesquelles il n'est pas de résurrection? Ou bien encore, nous vient-il à la mémoire, à travers je ne sais quel rêve poétique, le souvenir d'un autre vieux printemps qui nous fait palpiter le cœur par les images d'une contrée lointaine, d'une lune resplendissante, d'une nuit délicieuse? Le moment est venu. Paresseux insouciants, épicuriens philosophes, heureux indifférents, vous aussi, disciples de Livchin, et vous, patriarches de village, et vous, dames sensibles, le printemps vous appelle au champ. C'est le temps de la chaleur douce, des fleurs, des travaux paisibles, des promenades inspirées et des nuits séduisantes. Vite, vite, amis, partez, partez sur des voitures pesamment chargées avec des chevaux de poste ou de louage. Sortez en longue file des barrières de la ville. Et toi aussi, lecteur bienveillant, assis dans ta calèche de fabrique étrangère, quitte la bruyante capitale où tu t'es amusé pendant l'hiver. Viens avec ma muse capricieuse, écouter le murmure du feuillage sur le ruisseau innommé, près des lieux où Onegin, ce solitaire inoccupé rêveur, a passé naguère un hiver entier dans le voisinage de Tatiana. Ces lieux où il n'est plus maintenant, mais où il a laissé une trace douloureuse. Allons là-bas, où, venu des collines couchées en demi-cercle, le ruisseau coule en serpentant vers la rivière, à travers la prairie verte et le bois de tilleul. Là, le rossignol, amant du printemps, chante toute la nuit. Les glantines fleurissent, et l'on y entend le murmure des eaux. Plus loin se voit une pierre funéraire sous l'ombre de deux pins blanchis de vieillesse. Là, une inscription dit aux passants « Sigi Vladimir Lenski, mort trop tôt de la mort des âmes hardies en telle année à tel âge. Repose en paix, poète adolescent. » Naguère, le vent du matin balançait une couronne mystérieuse suspendu à la branche de pin inclinée sur l'humble monument. Naguère, deux amies venaient là le soin, et assises au rayon de la lune, elles pleuraient en se tenant embrassées. Et maintenant, le triste monument est oublié. L'herbe a poussé sur le sentier qu'on avait frayé alentour. Il n'y a plus de couronne à la branche. Seul le berger, vieux et cassé, il chante comme autrefois en tissant sa pauvre chaussure. Pauvre Lenski, le chagrin d'Olga ne la fit pas pleurer longtemps. Hélas, toute jeune fille est infidèle à sa douleur. Un autre sut attirer son attention et endormir sa souffrance par d'amoureuses flatteries. Ce fut un Uhlan. Un Uhlan fut choisi par son âme. Et déjà, elle se tient devant l'autel, la tête pudiquement baissée sous sa couronne, le feu du bonheur dans ses yeux qui ne se lèvent point, et un léger sourire errant sur ses lèvres. Pauvre Olenski! Dans son tombeau, enveloppé de la sourde éternité, s'est-il troublé à la fatale nouvelle de cette trahison? Ou bien, penché sur le léthé, somnolent et heureux de son insensibilité, le poète n'est-il plus touché de rien et le monde entier est-il muet et fermé devant lui? Oui, l'oubli et l'indifférence nous attendent tous au-delà du tombeau. La voix des ennemis, des amis, des amantes cesse à l'instant même, et si nous pouvions entendre quelque chose, ce serait le cœur hargneux de nos héritiers qui se livrent à des querelles indécentes. La voix sonore d'Olga cessa bientôt aussi de retentir dans la famille des Larines. Le Uhlan, esclave de son service, fut obligé de partir avec elle pour le régiment. La maman, disant adieu à sa fille, répandit des torrents de larmes et sembla cesser de vivre. Mais Tania ne put pas pleurer. Seulement son triste visage se couvrit d'une pâleur mortelle. Quand toute la famille se pressait sur le perron et autour de la voiture des jeunes époux pour leur adresser le dernier adieu, Tatiana vint aussi les reconduire. Et longtemps, comme à travers un brouillard, son regard suivit leurs traces. La voilà seule, restée seule. Hélas, sa compagne de tant d'années, sa jeune colombe, sa confidente chérie, est entraînée au loin par la destinée et à jamais séparée d'elle. Elle erre sans but comme une ombre. Elle va dans le jardin devenu désert. Nulle part et de nulle chose elle n'a de plaisir. Elle ne peut parvenir à répandre ses larmes, scellées sous ses paupières, et son cœur est brisé. Dans ses cruels isolements, sa passion se met à brûler avec plus de force, et son cœur le lui parle plus haut de cet Onegin absent. Elle ne le verra jamais. Elle doit haïr en lui l'assassin de son frère. Ce frère a péri, et déjà personne ne se souvient de lui. Sa fiancée s'est donnée à un autre, et la mémoire du poète a passé comme une traînée de fumée sous le ciel bleu. Deux cœurs, peut-être, s'attristent encore à son souvenir. Bon, à quoi bon s'attrister? Le soir était venu. Les eaux semblaient couler plus lentement sous le ciel obscurci. Les hannetons bourdonnaient dans l'air. Les rondes des jeunes gens s'étaient déjà dispersées. Un feu de pêcheurs fumait au-delà de la rivière. Plongée dans ses rêveries, Tatiana marcha longtemps à travers les champs ouverts. Elle marcha, et tout à coup, du sommet d'une colline, elle aperçut devant elle une maison seigneuriale, un village, un petit bois, un vaste jardin sur les bords d'une limpide rivière. Elle regarde et son cœur se met à battre plus vite et plus fort. Des scrupules l'assaillent. Irai-je plus loin ou retournerai-je sur mes pas? Il n'est pas ici. On ne me connaît point. Je jetterai un regard sur cette maison et sur ce jardin. Tatiana descend la colline. Regardant autour d'elle avec inquiétude et la poitrine haletante, elle entre dans la cour déserte. Des chiens se précipitent à sa rencontre en aboyant. À ses cris d'effroi accourt bruyamment une troupe des jeunes Drovolviers. Ils prennent la demoiselle sous leur protection et réussissent, non sans peine, à écarter les chiens. Peut-on voir la maison du Barine? Demanda Tatiana. Les enfants partirent aussitôt pour aller chercher la femme de charge. Elle arriva bientôt, ses clés à la main, et devant Tania s'ouvrirent les portes de la maison vide qu'Onegin avait habitée naguère. Elle entre. Dans le salon, une queue oubliée gisait sur le billard. Une cravache traînait sur le sofa qui semblait encore froissé. Tatiana s'avance plus loin, et la bonne femme qui la suit lui dit tout à coup « Voici la cheminée, c'est ici que le barine se tenait souvent seul. Ici, notre voisin, le Defalensky, a dîné souvent avec lui pendant un hiver. Prenez la peine d'entrer dans cette chambre, c'est le cabinet du barine. C'est ici qu'il dormait, qu'il prenait son café, qu'il recevait les rapports de l'intendant et qu'il lisait son livre chaque matin. Et le vieux barine a vécu également ici. Chaque dimanche, sous cette fenêtre, après avoir mis ses lunettes, il daignait jouer au doulaki avec moi. Oh, que Dieu donne le salut à son âme et le repos à ses os dans le tombeau, sous notre humide mer, la terre. » Tatiana promène autour d'elle un regard attendri. Tout lui semble cher et précieux. Tout nourrit son triste cœur d'un plaisir mêlé de peine. Tout, la table avec une lampe éteinte et le monceau de livres et le lit recouvert d'un large tapis, et la vue par la fenêtre des ténébreuses clartés de la lune et la pâleur immobile du demi-jour qui remplit la chambre, et le portrait de Lord Byron, et sur son socle la statuette en bronze, au front soucieux, sous le chapeau à cornes et aux bras croisés sur la poitrine. Tatiana reste longtemps comme enchantée dans cette cellule élégante. Mais il est tard, un vent froid s'est élevé, il fait sombre dans la vallée, le bois endormi domine la rivière chargée de brouillard, la lune s'est cachée derrière une colline, et dès longtemps la jeune pèlerine aurait dû retourner chez elle. Cachant son émotion, bien que non sans soupirer, Tatiana se remet en route. Mais elle a demandé la permission de visiter la maison solitaire pour y lire des livres toute seule. La bonne Anicia reconduit Tatiana jusqu'au-delà des portes de la cour. Dès le surlendemain de bonne heure, celle-ci était de retour et s'étant enfermée dans le cabinet silencieux, oubliant le reste du monde, elle y pleura longtemps. Puis elle prit les livres pour les examiner et, sans les lire encore, en trouva le choix assez étrange. Tatiana finit par lire avec avidité et tout un nouveau monde s'ouvrit devant elle. Bien que nous sachions que depuis longtemps Onegin se fût dégoûté de la lecture, toutefois il avait exclu plusieurs ouvrages de cet ostracisme, le chantre du Djaour et de Don Juan, et encore deux ou trois romans dans lesquels l'époque s'est réfléchie et l'homme contemporain est assez exactement représenté avec son âme immorale, égoïste et sèche, mais adonnée sans mesure à la rêverie, avec son esprit aigu et sceptique qui bouillonne d'une vie et vaine activité. Beaucoup de pages gardaient la trace profonde des ongles, et les yeux de la jeune fille attentive s'y dirigent avec plus de curiosité. Tantôt avec effroi, tantôt avec étonnement, Tatiana reconnaît par quelle pensée, par quelle observation Onegin avait été frappé, à quoi il acquiesçait en silence. Son âme se montre là dans une intimité involontaire, soit par un mot rapide, soit par une croix ou par un signe d'interrogation que le crayon a tracé en marge. Et grâce à Dieu, ma Tatiana commence à comprendre celui pour lequel la tyrannie du destin l'a condamnée à soupirer. cet homme bizarre, mélancolique et dangereux, cette création de l'enfer ou du ciel, cet ange, ce démon orgueilleux, mais qu'est-il enfin? Ne serait-ce qu'une imitation, qu'un fantôme plein de néant? Ou bien un moscovite drapé du manteau de Harold? Un commentaire de Mani venu de l'étranger? Un dictionnaire rempli de mots élégants? Ne serait-ce après tout qu'une parodie? Est-ce que Tatiana aurait déchiffré l'énigme, aurait trouvé le mot? Cependant, les heures s'écoulent. Elle oublie que dès longtemps elle est attendue à la maison où deux voisins réunis à la famille tiennent une conversation dont elle est le sujet. Que faire? Tatiana n'est plus l'enfant, dit en gémissant la bonne vieille. Il est grand temps de l'établir. Olga est plus jeune qu'elle, mais elle n'entend point raison. À tout le monde, elle dit sèchement la même chose, je veux pas. Et puis elle est toujours triste, elle est seule dans les bois. Ne serait-elle pas amoureuse? Mais de qui donc? Bouyanov a fait une proposition, refus. Ivan Petouchkov, autre refus. Le hussard Pitkin a passé quelques jours chez nous en visite. Comme il paraissait épris de Tatiana, comme il faisait le galantin. Oh, je me disais, elle consentira peut-être. Ah ben oui, la fusée est partie par les deux bouts. Alors, petite mère, pourquoi hésiter? Elle est à Moscou, à la foire aux fiancés. On dit qu'elle a beaucoup de places vacantes. Ah, mon père, j'ai pas assez d'argent pour ça. Il y en a bien assez pour un hiver, sinon je pourrais vous en prêter. La bonne vieille goûta fort ce conseil sage et opportun. Elle fit ses calculs et se décida sur le champ à partir pour Moscou. Dès l'hiver venu, Tatiana apprend cette nouvelle. Quoi ? Offrir au jugement malicieux du monde les marques évidentes de la simplicité provinciale, des toilettes surannées et des tournures de phrases surannées aussi, attirer les regards moqueurs des petits maîtres et des circés de Moscou. Oh, terreur, non! Mieux vaut pour elle rester enfouie au fond des forêts. Levée au premier rayon du jour, elle parcourt les champs et jetant autour d'elle un regard attendri. Adieu, disait-elle, tranquille vallon. Et vous, bois si connu, sommet si fréquenté des collines, adieu, beauté d'un ciel pur, adieu, riant pays. J'échange une vie chère et tranquille pour le vain bruit du monde. Et toi, adieu, ma liberté. Où suis-je entraîné? Que me tient en réserve mon destin? Ses promenades se prolongent plus que d'habitude. Elle s'arrête involontairement charmée, tantôt sur le bord d'un ruisseau, tantôt au pied d'une colline. Elle se hâte de faire ses dernières conversations avec les champs et les prairies. Mais, à la suite de l'été rapide, est déjà venu l'automne doré. Comme une victime qu'on pare magnifiquement, la nature résignée et froide se couvre de pourpre. Et voilà que le vent du nord, chassant devant lui les nuages, pousse un long souffle, puis un hurlement. Et voilà que le grand sorcier lui-même, que l'hiver s'avance. Il est venu, il règne, il se pend en franges aux branches des chênes, il s'étend en tapis onduleux sur les champs autour des collines, il a égalisé, sous le niveau d'une molle couverture, les rivages et les rivières immobiles, il a fait scintiller la glace. Tous sont charmés de ces facétieux sortilèges, mais seul le cœur de Tania n'en est pas satisfait. Elle ne va point, comme d'habitude, au devant de l'hiver pour respirer la poussière de la gelée, pour se laver la figure, les épaules et la poitrine avec la première neige prise sur le toit de l'étuve. Elle s'effraie du voyage dont la menace l'hiver. Le jour fixé pour le départ est dès longtemps passé. Voici qu'arrive le dernier terme. La lourde voiture à patins, vouée à l'oubli et remise à la lumière, tapissée à neuf, raffermie partout. Trois kitipkas, nombre habituel de la Beauce, sont chargés d'ustensiles de ménage, casseroles, chaises, coffres, pots de confiture, lits de plumes, matelas, cages à poules, pots et cuvettes, etc. Et voilà que dans l'isba de serviteurs s'élève déjà le bruit et les sanglots de l'adieu. On amène dans la cour 18 rosses. On les attelle à la voiture seigneuriale. Les cuisiniers préparent le dernier déjeuner. On empile de nouvelles montagnes sur les kibitkas. Les cochers et les femmes de ménage se querellent et s'injurient. Un postillon barbu sommeille assis sur un misérable cheval maigre et velu. Tous les gens de cour se sont réunis près de la porte pour baiser la main au maître. On a pris place enfin et le respectable véhicule rampe en gémissant hors du mur d'enceinte. Adieu, paisible asile, retraite solitaire, vous reverrez jamais. Et un ruisseau de larmes coule des yeux de Tatiana. Quand nous aurons élargi chez nous les frontières de la bienfaisante civilisation, avec le temps, mot d'après le calcul des tablettes philosophiques dans 5 siècles, nos chemins se changeront complètement. De tous côtés, des grandes routes en coupant la Russie la réuniront. Des ponts en fer feront avec leurs arches de larges enjambées par-dessus les rivières. Nous trancherons les montagnes, nous creuserons sous les eaux des voûtes hardies et nous construirons à chaque relais une belle auberge. Maintenant, nos routes sont détestables. Les ponts oubliés tombent en ruine. Au relais, les punaises et les puces ne laissent pas une minute de sommeil. Il n'y a point d'auberge. Dans une froide isba, un pompeux mais famélique prix courant est suspendu pour l'apparence et irrite en vain votre appétit pendant que les cyclopes de village, devant un feu languissant, raccommodent avec le marteau russe les légers produits de l'industrie européenne, tout en bénissant l'aubaine que leur donnent les ornières et les fondrières du sol paternel. Mais aussi, à l'époque de l'hiver glacial, le voyage est facile et commode. La route est unie et coulante comme un vers sans pensée, tel qu'on en voit dans les poésies à la mode. Nos automédons sont hardis. Nos troïkas, infatigables, et les poteaux des verstes, au grand amusement des regards inoccupés, glissent à la vue du voyageur comme les pieux d'une clôture. Par malheur, Madame Larine, qui craignait la dépense, se traînait non point avec des chevaux de poste, mais avec ses propres chevaux, et notre jeune fille put savourer jusqu'à la lie tout l'ennui du voyage. Il dura 7 jours entiers. Mais voici qu'on approche. Voici qu'apparaît à leurs yeux Moscou aux blanches pierres, et les croix d'or des vieux dômes de ses églises reluisent comme du feu au soleil. Ô mes amis, que je me suis senti heureux lorsque, pour la première fois, s'épanouit tout à coup devant moi l'amphithéâtre de ces temples, de ces clochers, de ces jardins et de ces palais. Ô Moscou, combien de fois dans mon triste exil, dans ma vie errante, j'ai pensé à toi. Moscou, que de choses, comme les eaux qui affluent dans un bassin, se réunissent à ton nom dans un cœur russe. Que de nobles échos il éveille. Voici, entouré de ses bosquets, le château Petrovski. Il est à la fois sombre et orgueilleux de sa récente gloire. C'est là que Napoléon, enivré du dernier bonheur que lui réservait la fortune, a vainement attendu Moscou, agenouillé, présentant les clés de son vieux Kremlin. Non, notre Moscou n'alla point lui tendre sa tête soumise. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un présent de bienvenue qu'elle préparait aux héros impatients. C'est un incendie. D'ici, plongé dans ses pensées, il considéra longtemps ces flammes terribles. Adieu, château, témoin de l'écoulement d'une gloire. En avant, cocher! Déjà blanchissent les piliers de la barrière. Déjà la voiture plonge et bondit dans les ukrabis de la Tverskaya. On voit défiler à la suite guérites de factionnaires, vieilles femmes, gamins, échoppes, réverbères, palais, monastères, jardins, tatars, vendeurs de robes de chambre, petits traîneaux, potagers, gros marchands, huttes misérables, paysans déguenillés, boulevards, tours antiques, cosaques à cheval, pharmacies, magasins de mode, balcons, lions en pierre sur les portes et troupes de corbeaux sur les croix. Une heure et deux passent dans cette fatigante promenade, et voilà qu'enfin, dans une ruelle près de l'église de Saint-Claritoine, la voiture s'arrête devant une maison. Là demeure une vieille tante, malade d'étisie depuis 4 années. Un kalmouk à cheveux blancs, en caftan déchiré, tricotant un bas, ses lunettes sur le nez, ouvre à deux battants la porte du salon. Le cri plaintif de la princesse, étendue sur un divan, retentit jusqu'aux voyageuses. Les deux bonnes vieilles s'embrassèrent en pleurant, et des exclamations mutuelles se mirent à couler comme un torrent. « Princesse, mon ange, Pachette, Alina, oh, qui l'aurait cru, il y a un siècle, est-ce pour longtemps, chère cousine, assieds-toi donc, que c'est étrange, oh, devant Dieu, une vraie scène de roman. Et ceci, c'est ma fille Tatiana. Ah, Tania, viens ici. Vraiment, je crois que je délire. Cousine, te souviens-tu de Grandisson? Quel Grandisson? Ah oui, je m'en souviens. Où est-il? Bien, ici, à Moscou. Il demeure paroisse de Saint-Siméon. Il est venu me voir la veille de Noël. Il n'y a pas longtemps qu'il a marié son fils. Et l'autre, tu sais? Oh, mais nous en causerons plus tard. Nous montrerons dès demain, Tania, à tous tes parents. Malheureusement, je n'ai plus la force de faire des visites. Alors à peine puis-je traîner les pieds. Mais vous aussi, vous devez être fatigué de la route. Allons nous reposer. Oh, je n'ai plus de force, je suis abattu. La poitrine, la joie maintenant m'est tout aussi lourde que le chagrin. Oh, mon cœur, je ne suis plus bon à rien. Quelle vilaine chose que la vie quand on est vieux. À ces mots, et fatigué de l'effort, une toux larmoyante la saisit. Les caresses amicales de la pauvre malade touchent le cœur de Tatiana, mais habituée à sa chambrette, elle se trouve mal à l'aise en ce nouveau séjour. Dans son nouveau lit, sous des rideaux de soie, elle ne peut dormir et le son matinal des cloches, cet avertisseur des travaux du jour, lui fait quitter sa couche. Assise à la fenêtre, elle voit se dissiper l'obscurité. Mais elle ne reconnaît pas les champs de son pays. Elle aperçoit une cour inconnue, une écurie, une cuisine et une haute clôture. Voilà qu'on mène chaque jour Tania à des dîners de famille pour présenter à des grands-pères et des grands-mères sa préoccupation distraite. Un accueil bienveillant, le pain et le sel de l'hospitalité. Des exclamations de surprise attendent partout ses parents arrivés de loin. « Comme Tatiana a grandi !»« Oh, y a-t-il donc longtemps que je t'ai tenu au baptême ?»« Et moi, je te portais sur mes bras. »« Ah, moi, je t'ai tiré les oreilles. »« Moi, je t'ai donné des gâteaux. » Et toutes les grand-mères reprennent en cœur. « Comme nos années s'envolent !» Mais dans ses grands-parents, nul changement ne se remarque. Tout est resté à la vieille mode. La tante princesse Elena porte le même bonnet de tulle. Lukeria Lvovna met toujours du blanc. Et Lyubov Petrovna dit les mêmes mensonges. Ivan Petrovitch est tout aussi bête. Simeon Petrovitch est tout aussi avare. Pielagueya Nicolaevna, le même ami, Monsieur Finfouche, et le même Carlin, et le même Marie. Et celui-ci, membre toujours aussi exact du club anglais, est toujours aussi humble, aussi sourd, et mange et boit pour quatre comme autrefois. Leurs filles embrassent à l'envi Tania. Les jeunes grâces de Moscou la parcourent d'abord du regard, des pieds à la tête, la trouvent un peu étrange, provinciale, maniérée, un peu pâle et maigre, mais pourtant agréable. Puis s'abandonnant à leur instinct, se font ses amis, l'emmènent dans leur chambre, l'embrassent, lui serrent tendrement les mains, la mettent à la mode en lui relevant les boucles de ses cheveux, et finissent par lui confier, sous le sceau du secret, les mystères de leur cœur, mystères de jeune fille. Leurs conquêtes, celles des autres, leurs espérances, leurs rêves, leurs espiègleries. Ces causeries innocentes coulent tout naturellement, légèrement teintées de médisance. Puis en retour de ce babil, elle lui demande avec force câlinerie l'aveu de son secret. Mais Tania, comme à travers un rêve, écoute tous ces discours sans s'y intéresser, ne les comprend même pas, et garde dans un silence jaloux, sans en faire part à personne, son mystère à elle, ce trésor enfoui de bonheur et de larmes. Tatiana, dans les salons, s'efforce de prêter son attention aux conversations générales, mais quelles niaiseries incohérentes et plates y occupent tout le monde. Que tout y est pâle et insipide. On est ennuyeux même quand on calomnie. Dans la désolante sécheresse des questions, des caquets, des nouvelles, pendant des journées entières, même par hasard et sans intention, il ne jaillit pas une pensée. L'esprit, là, de ce vide, n'a pas de quoi sourire. Le cœur n'a pas de quoi battre. On ne rencontre pas même une bêtise risible en tes cercles, monde nul et trivial. La jeunesse des archives contemple Tania du haut de sa roideur. Ils parlent d'elle entre eux avec peu de bienveillance. Seul, je ne sais quel benêt mélancolique la trouve idéale, et, appuyée contre la porte du salon où elle se trouve, lui prépare une longue élégie. D'ailleurs, l'ayant rencontrée chez une tante ridicule, V s'assit à ses côtés et réussit pendant quelques minutes à captiver son attention. En le voyant auprès d'elle, un vieillard important, tout en redressant sa perruque, s'enquit du nom de Tatiana. Mais là où de la melpomène froidement violente retentit le hurlement, où elle agite en vain son manteau constellé de 6 000 ors devant la foule indifférente, là où Thalie sommeille doucement au bruit d'applaudissements de complaisance, là où la seule Terpsichore excite l'admiration des spectateurs, là ne se dirigèrent point sur Tatiana ni les éloges, ni des loges, ni des stalles, ni les lauriettes jalouses des dames, ni les binocles des fins connaisseurs. On l'amène aussi à l'assemblée de la noblesse. Ici, la foule compacte, le bruit, la chaleur, l'éclat des lumières, le tonnerre de la musique, le tourbillon des couples entraînés, les galeries bigarrées de monde, le large hémicycle des filles à marier vêtues de leurs plus beaux atours, tout frappe à la fois tous les sens. Ici, les élégants de Pétersbourg viennent étaler leur impertinence, leurs gilets et leurs lorgnons mensongèrement inattentifs. Ici, les hussards en congé s'empressent de se montrer, de faire sonner leurs éperons, de briller, de plaire et de disparaître. La nuit a beaucoup de charmantes étoiles. Moscou a beaucoup de charmantes beautés. Mais plus brillante que toutes ses compagnes célestes est la lune, plongée dans l'éther d'azur. Celle que j'ose à peine troubler par le son de ma lyre, brille aussi sans rival comme la lune splendide au milieu du cœur des femmes et des filles. Avec quelle fierté divine elle daigne à peine toucher la terre. Que son regard est à la fois superbe et touchant, et quelle volupté! Tais-toi, cesse, assez de sacrifices à la folie. On court, on rit, on se salue, on se pousse. Le galop, la mazurka et la valse succèdent. Cependant, entre deux de ses tantes, et sans que personne la remarque, se tient Tatiana. Elle regarde devant elle et ne voit rien. Elle étouffe. Tout lui semble haïssable. Et sa pensée la remporte à sa campagne, à ses pauvres paysans, à ce coin de terre ignorée où coulent des ruisseaux limpides, à ses fleurs, à ses romans, aux ténèbres des grandes allées de tilleuls, là où il lui est apparu. Sa pensée erre ainsi au loin, et le bal qui bruit autour d'elle est oublié. Mais depuis longtemps, un général, homme d'importance, ne la quitte pas des yeux. Ses deux tantes se font un signe d'intelligence, et chacune d'elles, la poussant du coude, lui dit à l'oreille « Regarde vite à gauche !»« À gauche, pourquoi ? Qu'y a-t-il ? N'importe, regarde ! Dans ce groupe, vois-tu, en avant, là, où sont encore deux messieurs dans l'uniforme, il s'est avancé, il s'est mis de côté. » « Qui, ce gros général ?» Mais ici, après avoir félicité notre Tatiana de sa nouvelle conquête, nous allons de rechef nous détourner de notre voix pour revenir à celui que nous chantons. À propos, il faut que j'en dise deux paroles. Je chante un mien ami et quantité de ses extravagances. Ô toi, muse de l'épopée, bénis mon long travail, et me mettant un solide bâton à la main, empêche-moi de marcher de travers. Assez, ce fardeau est tombé de mes épaules. J'ai rendu honneur à la muse classique. La vocation est venue un peu tard, mais elle est venue.